shit. $200 a week to talk about my lack of direction. I got a bit of a complex, in case that wasn't clear from the last three sessions.
And if you're still feeling down, be honest with yourself. I think you still want me around.
That's why I'm still waiting.
Chiz 94.3 FM à Québec.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Semaine, la semaine prochaine c'est good. Désolé, j'ai pas d'expat depuis un bout. J'ai quelques regrets, mais je reste debout.
Écoute local avec Chiz 94.3.
Le Beatnik Show, la meilleure playlist de rap au Québec. Des talents locaux, des nouveautés, la crème du hip-hop québécois. Avec votre MC, Nick Leclerc.
Lundi 18h30
au 94.3. Chiz.
Hell yeah, Chiz.
Pour le meilleur beat. Beatnik Show, man, t'as le dit, c'est malade.
Bon dimanche midi à tous, bienvenue à The Keyway des Nerds, émission préférée de la nerderie, votre rendez-vous hebdomadaire donc pour parler de tout ce qui est de jeux de société, jeux vidéo et autres actualités de la culture geek, notamment des films. J'ai avec moi aujourd'hui trois de nos chroniqueurs, donc pas de nouveau aujourd'hui, c'est quasiment une première à The Keyway des Nerds qu'on n'ait pas quelqu'un de nouveau à chaque semaine, l'équipe ne cesse de grandir. Donc bonjour à Judith, Nassim et Jérémy.
Salut, salut.
Jérémy 2,
ah ouais,
bien
Jérémy
évidemment. Comment est-ce que vous allez, messieurs?
Ah, super bien aujourd'hui, il fait beau soleil, là. Wow.
Et quant à vous, madame?
Ça va bien, ça va bien.
Ça va bien, donc sans plus attendre, on va pouvoir commencer tout de suite avec les anecdotes. Je vais commencer avec la mienne. Donc, j'avais parlé la semaine dernière que je faisais beaucoup de travail dans un centre jeunesse. Initialement, ce que je faisais, c'était des parties de Donjons Dragons avec eux, sauf que finalement, il y a eu un petit bug dans les horaires. Ils ont eu besoin d'un nouveau moniteur, ce qui fait que j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps avec les jeunes durant les dernières semaines. Mais ça, c'est un avantage pour mon métier de maître de jeu. puisque ça me permet d'en savoir plus sur les jeunes, ce qui les affecte, ce qui ne les affecte pas, ce dont je peux parler avec eux, s'il y a des thématiques qu'ils préfèrent. Ce qui fait que ben, ça ne fait qu'améliorer la qualité des parties et ça s'est ressenti. Donc, pendant la totalité de la semaine, je vous jure, je n'ai rien entendu d'autre que... mon nom de camp, c'est Radalf. Donc, Radalf, quand est-ce qu'on joue à Donjon Dragon? Radalf, quand est-ce qu'on fait ci? Donc, ils avaient vraiment, vraiment très hâte, au point que même les autres moniteurs, ils étaient venus pour me dire, là, Jérémy, ton activité est vraiment cool, mais c'est parce que
tu ruines les nôtres, là.
C'est ça, exact. Là, on n'arrive pas à compétitionner. Fait que ça m'a bien fait rire. J'ai trouvé ça divertissant. Mais c'est le fun de pouvoir voir que ça permet de créer ce genre de connexion-là avec les jeunes puis que ça leur donne quelque chose qu'ils ont hâte de refaire durant leur été. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. C'est définitivement un coup de cœur que j'ai eu cette semaine. De votre côté?
Moi, de mon côté, ben, je viens de commencer un nouvel emploi. Fait que, tu sais, pour socialiser un peu avec les nouveaux collègues, on parle un peu des passions, des affaires comme ça. Puis ça se donne que moi, je suis un fan de musique. Puis plusieurs de mes collègues qui, eux aussi, sont des fans de musique. Mm-hmm. Fait que j'ai comme pu échanger un peu les playlists avec eux, parler un peu de leur genre. Moi, j'aime beaucoup de la musique instrumentale. Mm-hmm. Fait que dans tous les genres, du moment que c'est juste des instruments, moi, je tends plus dans la musique où il n'y a pas de paroles, où il n'y a pas de chant. C'est plus des instruments. Fait que je partageais ce que j'aimais. Puis les gens m'ont montré des trucs de country, ils m'ont montré du punk, ils m'ont montré du metal, ils m'ont montré pas qu'à l'affaire de ce qu'ils aiment, du hip-hop, du lo-fi, des trucs comme ça. Fait que c'était quand même le fun. C'est pas tant nerd, là, mais tu sais, c'est un peu...
Ben, c'est un peu nerd. Je dirais que la grande majorité des musiques instrumentales, ce sont souvent des musiques de jeux vidéo. Hein. On pense aux jeux From Software. On pense, en fait, à quasiment tous les jeux. Là. C'est très, très rare qu'il y ait des paroles dans les musiques de jeux vidéo.
C'est rare, c'est vrai. Mais j'en ai fait une. Récemment, j'en ai découvert une. L'OST de Devil May Cry.
Ah ouais, oui, non, là, ça
génial.
Chante.
Ah, ça, c'était génial. Franchement, je l'ai découvert. Là, si j'ai des gens dans l'audience qui aiment le rock là, ou le metal même, là, c'est fou. Moi, ben, j'ai vraiment aimé.
Devil May Cry, c'est juste ça. Là. C'est du cool et tuer des monstres.
Ah,
c'est
exactement.
Que ça. Genre, l'introduction te le fait comprendre. Il y a Dante qui est là, qui tire avec ses fusils, qui tourne sur lui-même, qui rattrape. Bref, allez voir l'introduction de Devil May Cry 4 et 5. C'est du bonbon en termes de visuel. De ton côté, Nassim?
Moi, de mon côté, là, j'en ai pas vraiment, je vais être honnête, j'en ai beaucoup trop. Donc, mon anecdote, c'est sortez, les amis, c'est l'été, il fait beau, on est vraiment chanceux, on a un bel été. Et le mois de juillet est passé en claquant des doigts. Donc, il vous reste un dernier mois, mes amis, sortez, ayez du fun, puis créez vos propres histoires.
Ah,
comme dans les jeux vidéo.
Quel beau message.
Sage maintenant.
Nassim le sage, que nous l'appellerons.
C'est ça, mais c'est pas ça mon anecdote. Là. Comme à la fin de l'été, je vais revenir, on va faire une émission spéciale anecdote de l'été là, 2022. Là.
Okay. Après Nassim le blanc, Nassim le gris.
Tout à fait. Je pense que si t'as connu,
j'ai pas compris la
référence au Seigneur des Anneaux.
Exactement. Là.
Et de ton côté, Judith?
Moi, je suis pas mal rendue dans ma routine. Il y a juste hier là, que j'ai fait une dépense inutile. Non. Ben, pas inutile, là. J'avais vraiment hâte de l'acheter. Je me suis acheté un ninja. Je sais pas si vous savez c'est quoi.
Un ninja?
Un quoi?
Ouais, c'est un milkshake, puis... En tout cas, plein de trucs là, pour broyer. Là. Fait que
c'est une machine à faire des milkshakes.
OK. Tartinade, potage, puis ces affaires-là. Fait que ça a coûté cher, là, mais je suis tellement contente.
On sait qu'on est devenus des adultes lorsqu'on est satisfait de recevoir des machines qui permettent de faire.
Tellement.
Ce qui veut dire que je suis encore un enfant. Flûte de jeu.
C'est ça.
Parfait. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, on allait parler de différentes choses, notamment de jeux d'horreur avec Jérémy. Donc, tu peux nous parler de cette découverte que tu as faite.
Ben, pour les habitués, pour ceux qui me connaissent un peu comme chroniqueur, moi, j'aime ça parler de vieux jeux vidéo d'habitude qui ont au moins 10 ans ou plus. Puis aujourd'hui, ça ne va pas faire exception. Je voulais parler d'un jeu qui a fait... Pas exactement qui n'a pas créé un culte, mais la suite d'un culte. Donc, tout le monde est probablement familier, surtout les fans de jeux d'horreur, Amnesia The Dark Descent. Mm-hmm. Donc, ça, c'est un jeu culte qui était sorti, je pense, en 2008 ou en 2009.
Ouais, ben, un jeu qui a fait découvrir PewDiePie, notamment.
Absolument, ben oui. C'est là que lui a commencé, tout ça l'a propulsé un peu à la fame. Mais c'est certain que le jeu, il y a une suite, A Machine for Pigs, qui n'a pas été faite plutôt par le même dev. Ça a été publié par Frictional Games, qui est le dev original, mais ça. ça, le jeu a été refilé à un studio, The Chinese Room, que ça s'appelle. Et donc, le jeu avait moins été bien reçu à l'époque. Je pense que c'est sorti en 2011, ou peut-être 2012, peut-être 2013 même. Mm-hmm. Ça fait environ 10 ans.
Ben, il a vraiment passé inaperçu, je me souviens.
Vraiment, les gens n'en parlaient pas tant que ça. Entre autres parce que, ben, il n'y a pas eu le même. Tu sais, excusez-moi, The Dark Descent était devenu célèbre parce que, un, le jeu fait vraiment, vraiment peur. Là. À ce niveau-là, c'est vraiment un grand classique d'horreur. Mais aussi parce que tout le phénomène Twitch, le phénomène YouTube avec PewDiePie, entre autres. Fait que tu avais toutes sortes de gens, tu sais, qui ne connaissent même pas les jeux vidéo, qui ont découvert le. Des jeux vidéo juste avec ce jeu-là en particulier. Fait que la suite, elle a été critiquée pour les gens qui l'ont joué, entre autres A Machine for Pigs, parce qu'il faisait moins peur. Le jeu fait moins peur. Il fait moins peur que l'original. Fait que les gens comprenaient moins bien. Mais c'est aussi un jeu qui s'est centré beaucoup plus sur l'histoire.
Ouais, la narration.
Donc, exactement, ouais. Les jeux sont très similaires dans leur narration, au sens où le protagoniste est un personnage qui, d'une manière ou d'une autre, commet des actes horribles dans leur passé avant qu'on prenne le contrôle. Et puis, il devient amnésique. Donc, il oublie ce qu'ils ont fait et puis ils savent pas exactement son où. Puis, au fur et à mesure, la progression du jeu narratif, c'est d'essayer de reconstruire un peu le puzzle de leur mémoire pour comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait. Et puis, éventuellement, ils finissent par le découvrir. Puis après, ils doivent comme se racheter, comme une quête de rédemption ou d'essayer de racheter leur âme, surtout dans le deuxième, qui est un jeu extrêmement sombre. Vraiment, j'ai joué à beaucoup de jeux vidéo, puis j'ai lu quand même beaucoup de livres dans ma vie, puis j'ai vu beaucoup de films, mais pas beaucoup d'histoires qui sont plus sombres que celles de Machine for Pigs. En gros, c'est juste pour. C'est pas un spoiler, là, mais le titre est une métaphore pour les êtres humains. A pig, c'est les êtres humains dans le titre. Et a machine, c'est une machine de transformation industrielle.
La traduction littérale, ce ne serait pas une machine pour les cochons, mais une machine pour les porcs.
Exactement, ouais. Tout à fait, une machine pour les porcs. Donc, c'est vraiment une notion. Il y a vraiment des sujets sombres dans le jeu. Des trucs comme genre, cannibalisme, déshumanisation, aliénation, isolation sociale, vraiment des sacrifices. Non, vraiment des affaires tordues. Mais l'histoire, elle est vraiment douce. Comme c'est souvent le cas, peut-être dans les jeux d'horreur, dans les films. T'sais, des fois, ça fait. T'as des sujets qui sont vraiment tordus, mais à la fin, c'est
abordé avec légèreté quand même.
À légèreté, mais c'est aussi. Le but, c'est de. Enfin, je dirais même ce jeu-là, il l'aborde pas de manière légère non plus. C'est vraiment. Okay. Vraiment élevé. Mais le but, c'est comme thérapeutique. Il parle de ces sujets-là pas pour te déprimer, mais pour essayer de donner une lueur d'espoir, parce qu'il y a vraiment des trucs tordus dans la vie. Puis c'est comme pour peut-être articuler une vision positive malgré tout, une vision qui t'encourage à persévérer, de pas abandonner, même s'il y a des trucs sombres dans la vie.
C'est cool, ça. Puis c'est d'autant plus impressionnant. Il me semble qu'initialement, Machine for Pigs avait été conçu avec l'objectif d'être un mod pour Amnesia, mais finalement, ça a comme tellement bien fonctionné que c'est devenu une sorte de suite indirecte.
Exactement. Ça, c'est vraiment un truc de lore pour The Dark Descent. Il y avait beaucoup de mods qui ont été faits pour le jeu, entre autres un qui s'appelait Justine. Donc, c'est un jeu qu'on peut modder très bien. Si vous allez encore aujourd'hui, si vous l'avez dans votre librairie Steam ou quelque chose comme ça, vous pouvez facilement télécharger des aventures que les gens ont créées. Puis, il y en a qui sont vraiment, vraiment bien faites. Mais ça, fait que Machine for Pigs est très similaire au sens où, bon, t'as encore une fois le même un protagoniste, ça se déroule à la veille du 20e siècle, donc c'est en 1899, genre quelques jours avant le jour de l'an. Donc c'est tout juste avant la transformation du siècle. C'est un détail quand même assez important pour l'histoire. Mm-hmm. On joue encore une fois un homme, Mandus, qui se réveille. C'est un grand industriel. Il a fait fortune dans la transformation d'ingénierie, ouais. Transformation de viande. Donc lui, il y a des usines de transformation de porc, mais là, pas d'être humain, là, du vrai pas.
Ouais, vrai.
Puis c'est ça. Fait qu'il est comme puis en gros, il a bâti une espèce de complexe sublime en dessous de la ville de Londres. Donc c'est un immense complexe. Son usine, elle est folle, tu vois. Et puis il se réveille dans ce manoir et puis bon, il est amnésique. Il sait pas exactement qu'est-ce qui se passe. Et il cherche ses deux fils, Edwin et Enoch, si je me souviens bien. Il n'arrive pas à les trouver. Et puis non, il y a une machine, ou plutôt il y a un intercom qui lui dit que ses enfants sont prisonniers sous terre, profondément enfouis sous terre dans la machine. Il faut qu'il les retrouve, tu vois. Et pour ce faire, au fur et à mesure, en gros, et puis évidemment, il y a des monstres, puisque c'est un jeu d'horreur. C'est des espèces d'humanoïdes, porcs, mi-homme, mi-porc un peu. C'est pas exactement clair qu'est-ce qu'ils sont. Mais bon, ils hantent les couloirs un peu de la machine. Et puis, bon, Mandis, il a commencé à faire sa descente en enfer. Mais aussi, c'est multidimensionnel. Donc, il descend littéralement sous terre, mais il descend aussi dans la folie, il descend dans son passé, il descend dans ses souvenirs, il descend dans son propre péché, parce qu'il a vraiment fait des trucs tordus, là, le bonhomme.
On est profondément dans la métaphore.
Absolument, vraiment. Puis après, il remonte à la surface et il redescend plus tard dans le jeu. Donc, c'est vraiment... C'est comme... le jeu était critiqué parce qu'il te faisait pas aussi peur, mais il fait quand même peur. C'est pas comme si le jeu, surtout les nuits d'été là, on a de la misère à dormir, 3 heures du matin, il fait trop chaud. Et c'est un bon jeu, ça, si vous avez de la misère à trouver le sommeil, et vous fermez toutes les lumières, mettez une paire d'écouteurs, puis là, ça va vous faire peur. Peut-être pas aussi peur que le premier, mais il fait quand même pas mal peur. Mais aussi pour les gens, tu sais, qui aiment vraiment les histoires comme ça, qui sont multidimensionnelles ou où le protagoniste est à la fois le protagoniste et l'antagoniste.
Ouais.
Donc, c'est ce genre de jeu-là où le grand ennemi, c'est le personnage qu'on joue, et l'héros aussi, c'est le personnage qu'on joue. Donc,
au final, l'ennemi, c'est l'humain.
Exactement. Ben voilà, c'est un peu les appétits de l'être humain. L'être humain est né, il a une nature, il est susceptible à toutes sortes de périls. Il représente un danger pour lui-même puis son prochain. Donc, il y a tout ça. C'est un peu ça, c'est dans cette tradition-là un peu tragique dans laquelle s'inscrit notre héros, dans Mandus. Et puis, c'est ça, dans sa quête pour retrouver ses deux fils là, qui sont perdus au fond de la machine.
Formidable. Wow. Ben, tu racontes très bien tout cela. Mais si l'on te demandait des détails supplémentaires par rapport à la conception, est-ce que tu as des histoires, des petites anecdotes par rapport à Machine for Pigs au niveau de son développement? Est-ce que tu en avais entendu parler?
Pas du développement. Ben, le développement, déjà, un détail, je pense que le détail le plus frappant, c'est que c'est pas Frictional Games qui a fait le jeu. Mm-hmm. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui ont bâché le jeu à cause de ça parce que c'était comme un peu comme Dark Souls 2, c'est From Software, c'était le B-team, puis pas la A-team. Des fois, c'est ça. Quand les fans sont pas satisfaits d'un jeu, d'un sequel, ils vont regarder exactement qu'est-ce qu'il a fait. Peut-être qu'il y a un directeur différent, peut-être qu'il va avoir. Mais c'est ça, dans ce cas-ci, c'était carrément un studio différent. C'était un studio, je pense, c'était The Chinese Room. Ils sont habitués de faire des jeux narratifs. Donc, il n'y a pas beaucoup de gameplay, mais c'est beaucoup plus basé sur le visuel, l'audio. C'est un peu comme des walking simulators. Puis, ils essaient de transmettre une expérience narrative audio. Donc, Machine for Pigs ressemble beaucoup à ça. Le gameplay est beaucoup plus réduit. Il y a des critiques, entre autres, parce que certains éléments qui contribuent à la peur dans le premier jeu, mm-hmm. entre autres des ressources limitées, on avait un accès limité à l'huile pour notre lampe ou des allumettes, c'était plutôt le cas dans le deuxième jeu. Mm-hmm. Le premier jeu, il se déroulait à la moitié du 19e siècle, donc il n'y avait pas encore d'électricité. Au début du 20e ou à la fin du 19e, il y avait un peu plus d'électricité, fait que par exemple, nos lampes qu'on a, l'électricité, fait que toute cette espèce d'espèce scavenge a comme disparu, fait que t'as plus besoin d'aller dans les recoins sombres. T'sais, c'est comme ça, dans le premier jeu, t'as besoin d'huile, fait qu'il faut que t'ailles le chercher, mais il faut que t'es dans un coin sombre, fait que t'as besoin d'utiliser la lumière, fait que t'as comme vraiment cette tension-là, t'avais pas ça dans le deuxième. Les monstres faisaient moins peur, la musique, elle est très bien, l'OST, elle est excellente, mais elle est pas aussi terrifiante que celle du premier. Fait que c'est vraiment une histoire qui c'est plus... Tu peux voir que les devs étaient plus habitués à faire quelque chose narratif. Ça paraît. Je veux dire, oui, le jeu fait moins peur. Oui, le gameplay est moins intéressant.
Mais si l'histoire est plus intéressante. L'intéressant
est plus intéressant. Le voice acting est 20 fois meilleur. Mm. Et il est excellent. Je te dirais même que l'OST est plus mémorable. L'autre, l'OST de Dark Descent est excellent aussi, mais c'est plus de l'ambiance pour faire peur, tu vois. Mm-hmm. Tandis que Machine for Pigs a plus des discours beaucoup plus... Le dialogue est beaucoup plus mémorable. Il est beaucoup mieux écrit. Ça paraissait que l'interface était retravaillée un peu... la notion de l'éclairage, je trouvais qu'elle était beaucoup mieux faite dans Machine for Pigs, mm-hmm. parce qu'il y a cette notion d'industrialisme, tu vois, avec les barreaux en métaux, des planchers en métaux, les trucs électriques. Exactement, tu peux vraiment imaginer un truc horreur, genre avec du métal rouillé, avec du sang, puis une lumière qui clignote, quelque chose comme ça, avec la mauvaise électricité. T'as beaucoup de ça dans le jeu. Puis aussi, c'est un jeu qui excède beaucoup de pitié. Mm-hmm. Puis la contemplation, la mélancolie, vraiment, surtout quand tu commences à te pencher, surtout quand on prend la peine de lire ce qui est écrit dans le texte, des logs, des fois des entrées de journaux que Mantis a écrit ou que quelqu'un a écrit. Et puis, tu sais, la manière dont il décrit les êtres humains ou des autres personnes dans la société, genre, waouh, ça. Ou surtout, ça, j'en parlerai pas, là, mais il parle beaucoup des tragédies qui sont à venir dans le siècle prochain. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important, cette notion-là, à la fin du 19e siècle. On tourne autour d'une page. Il y avait une certaine logique au monde pendant le 16e, 17e, 18e, 19e. Il y avait une suite logique.
On
n'avait
pas encore le début de la révolution technologique.
Ben, tu l'avais, mais elle n'avait pas culminé avec la Première Guerre mondiale. Puis c'est vraiment là que le monde moderne a vraiment basculé. C'était pas lors de la Première Guerre mondiale.
Oui, tout à fait,
donc c'est vraiment cette notion-là, on tourne une page, puis il y a quelque chose qui est perdu, une ambivalence par rapport à la technologie, par rapport à la déshumanisation, puis à la guerre beaucoup. Mm-hmm. Fait que non, et tout ça, se déroule un peu dans l'autonomie de la conscience de Mendes, de notre personnage principal, puis sa propre position, puis son trauma par rapport à tout ça.
Parce qu'effectivement, à partir des années 30, la technologie va se mettre à évoluer de manière vraiment exponentielle. Hein. Au départ, ça va être assez calme, sauf que nous, on l'a tous connu. Si on se rappelle, lorsqu'on avait 4-5 ans, téléphone cellulaire, ça n'existait même pas, en fait. Hein. Les gens qui se permettaient d'avoir ça, ils avaient vraiment beaucoup d'argent. Puis encore là, c'est à peine si tu pouvais jouer à Pong sur ton cellulaire. Les ordinateurs n'avaient même pas le 1/8 de la puissance que nos cellulaires d'aujourd'hui ont. Ça évolue très, très vite là, à partir des années 30.
Ben, surtout, c'est ça, parce que tu as eu le bon technologique qui a encouragé ou qui a causé la Deuxième Guerre mondiale. Puis après, tu as eu la guerre froide. Tu vois, fait que t'as vraiment une soixantaine d'années où vraiment tu as eu 50-60 ans où tu as vraiment eu une propulsion technologique. Puis qui était poussée entre autres par la nécessité militaire. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Mm-hmm. C'était peut-être entre autres pour ça qu'on a un ralentissement technologique.
Ouais.
Peut-être beaucoup plus une narration négative par rapport à la technologie quand tu parles d'intelligence artificielle ou de robots ou des technologies de collecte d'informations, des affaires comme ça. Les gens, même les ingénieurs qui les font, ils sont même eux-mêmes ambivalents par rapport à leur
travail. On en avait parlé il y a quelques mois, mais c'était avec vous. Je pense que c'était. On avait parlé de Fallout. Mm-hmm. On n'est pas très optimiste au niveau de ce que la technologie va apporter, alors que pourtant, il y a quand même des choses à faire avec la technologie. Il y a quand même un certain optimisme. Mais pour en revenir à Amnesia. un truc que je trouve très intéressant, c'est que tu mentionnais que Machine for Pigs, lorsqu'il était sorti, les gens, bon, c'était nouveau, c'était pas exactement ce à quoi ils s'attendaient, puis ça avait pas été super fameux. Ça apparaît dans les évaluations Steam. Donc, si tu regardes toutes les évaluations, tu vois qu'elles sont plutôt moyennes. Cependant, si tu regardes dans les dernières années, tu vois que les évaluations sont plutôt positives. En fait, elles sont même très, très bonnes. Comme de quoi, des fois, c'est vraiment juste une question des attentes que le spectateur a.
Exactement.
Et lorsqu'on commence à avoir de nouveaux joueurs, de nouveaux spectateurs, ça se met à beaucoup changer. Un exemple extrêmement notable de ça, c'est The Last of Us 2. Sans divulgacher, il y a un élément très, très, très perturbateur au début du jeu qui fait que les gens, ils n'ont pas été capables d'adhérer au jeu. Donc, tout le long du jeu, ils jouaient un peu avec cette espèce de
arrière-goût. Il y a un arrière-goût.
Non, mais il y avait de la haine. Là.
Ah, carrément, oui, ça aussi.
La doubleuse du personnage auquel on pense a littéralement reçu des menaces de mort, s'est fait agresser dans la rue. C'est... Les gens, est-ce qu'on peut faire attention avec nos doubleurs? Ils sont excellents au point où on a de la difficulté à les dissocier de leur personnage, mais est-ce qu'on peut essayer de les garder, je vous prie? Bref, ça, c'était ma petite... aparté. Mais effectivement, donc Amnesia, A Machine for Pigs, actuellement à 21,99 sur Steam. Et j'ai le regret de t'informer que cette fois-ci, il n'y a pas de rabais.
Il n'y a pas de rabais. T'as vu ça, je débarque les jeux dont je parle tout le temps en rabais, genre 75%. Mais ça, c'est un jeu autour de l'Halloween. Moi, j'en voulais en parler aujourd'hui parce que les gens ont plus de temps, c'est l'été, les gens peuvent se coucher plus tard. Puis c'est ça. Moi, j'ai de la misère à dormir l'été parce qu'il fait trop chaud. Mm-hmm. Fait que moi, je me couche trop tard, j'arrive pas à trouver le sommeil. Fait des fois, je fais juste booter l'ordinateur puis je joue un jeu d'horreur, quelque chose comme ça.
Ouais.
Mais vraiment, autour de l'Halloween, en octobre, septembre, ce jeu-là va être à 75% de rabais, 80% de rabais, il va coûter genre 4$, il va rien coûter. C'est un excellent jeu sur tout ça. Si les gens qui sont des fans d'horreur, mais aussi de suspense psychologique, tu sais, les gens qui sont des fans de films comme Shining ou peut-être Shutter Island, quelque chose comme ça, où vraiment l'ennemi est à l'intérieur de l'être humain, tu vois, c'est pas un monstre qui est à l'extérieur, exact. C'est vraiment aux confins de notre propre conscience, puis la ligne qui est tracée au centre du cœur de l'homme, entre le bien et le mal, pour citer ça, généticienne. Donc non, vraiment, c'est les fans d'horreur, les fans de narration, puis aussi de belle musique, vraiment, là, surtout des violons, beaucoup de violons dans l'orgue aussi, non, vraiment, de l'OST, elle a fait un très beau travail, la compositrice.
Ben, c'est que c'est un élément important aussi des jeux d'horreur, hein. Ça passe énormément par l'audio, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la grande majorité des jeux d'horreur ou même des films d'horreur, on va recommander d'avoir un casque ou alors, dans le cas des films, d'avoir une expérience en cinéma, d'avoir un son tout autour de soi, parce que si tu écoutes un film d'horreur sur ton ordinateur, couché dans ton lit, avec la lumière allumée, puis le son qui sort de ton speaker audio qui n'est pas vraiment fait pour ça, t'auras pas le même niveau de qualité, t'auras pas la même expérience que si tu viens créer les conditions propices.
Absolument, c'est valide pour n'importe quel jeu de la série Amnesia, n'importe quel jeu d'horreur, vraiment, il faut pas être distrait. Idéalement, la nuit, on ferme toutes les lumières, on a un casque d'écoute, on est concentré là-dessus. Un, c'est pour avoir peur, ça aide à avoir peur, là, pour les gens qui ont thrilled un peu d'avoir des émotions fortes de la peur, mais aussi ici, c'est juste, les devs travaillent avec ces paramètres-là, tu vois, c'est contrairement à tous les autres, dans les autres genres de jeux vidéo, ou même de films, tu t'attends à ce que, c'est quoi les paramètres, ben, tu es assis, normalement, tu vas être assis, tu vas tenir la manette dans tes mains, mais c'est pas mal juste ça, tu vois, puis ultimement, tu regardes l'écran. Tandis que dans un jeu d'horreur,
il faut une immersion.
Exactement, beaucoup plus. Ouais. Mais pour les jeux narratifs, en général, c'est encouragé d'avoir une immersion, mais encore plus pour les jeux d'horreur parce que tu es censé vivre quelque chose d'émotionnel, de viscéral quand tu as peur, quand tu es anxieux, quand tu n'as pas envie. T'sais, tu mets le jeu sur pause et puis il faut que tu aies respiré pendant 5 minutes. Moi, je l'ai fait. Moi, j'ai dû faire ça souvent quand je jouais, surtout à l'original. Là, The Dark Descent, laisse-moi te le dire des fois, je me suis mis dans un coin et j'attendais 5 minutes. Tant que mon pouls baisse un peu.
Ça ne m'était pas arrivé avec Amnesia, mais ça m'était arrivé avec Doki Doki Literature Club.
Okay.
Il y a un moment, en fait, celui ou Sayori, bref, tout le monde qui joue au jeu sait de quoi je parle. Les gens qui n'ont pas joué au jeu, allez jouer au jeu, je vous en prie, c'est tellement une belle histoire. Mais ce moment-là, il a vraiment fallu que j'arrête l'ordinateur, que je rallume les lumières, que je sorte sur mon balcon, puis que je prenne 2 minutes pour faire « OK, qu'est-ce qui vient de se passer? » Comme c'était vraiment... c'était extatique comme moment. Okay, là. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'aime ça quand un jeu ou une œuvre de fiction, un livre, film, qu'importe, est capable de me faire ressentir des émotions au point où j'en oublie mon contact avec le réel. Ça, je pense que c'est un signe que t'as vraiment très bien fait ta job.
Exactement.
Parce que t'es un développeur.
Ah, c'est un signe de génie, là, vraiment. Là.
Du côté de nos chroniqueurs, est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous intéresse, les jeux, les films d'horreur ou Amnesia, on vous en parle depuis tout à l'heure, puis vous vous dites « Ah, ça, c'est un jeu que je ne jouerai pas ». Ça ressemble à quoi?
Ben moi, l'horreur, je trippe pas. J'aime mieux les thrillers.
OK.
Ouais. Mais ton histoire, ça me faisait penser à le film « Sweeney Todd ».
OK, ça me dit... Non, OK, ouais, j'en ai déjà entendu parler, mais je ne l'ai jamais écouté, non?
C'est avec Johnny Depp.
Mm-hmm.
Puis lui, c'est un barbier. Puis si je me rappelle bien de l'histoire, il essaie de retrouver sa fille. Puis sa fille, c'est comme le plus riche de la gang. Là. Fait que là, il finit par...
C'est une histoire de richesse.
Ouais,
c'est une histoire...
C'est ça.
Mais dans le fond, puisque tu parlais de thriller, j'imagine que dans ce film-là, les gens meurent un à un.
Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de... Puis lui, il finit par avoir une machine puis il fait du burger avec les humains.
Okay, ouais,
tu vois, c'est vraiment...
Tu vois, moi, je suis moins confortable avec ça. Ouais. Généralement, moi, tu sais, moi, j'aime l'horreur psychologique. Genre, j'aime les trucs... Moi, quand je vois des genre du sang... C'est correct d'avoir du temps de temps. Mm-hmm. Quelqu'un qui se fait tuer, c'est correct, là. Mais quand, genre, des trucs comme Friday the 13th or Saw, des affaires comme ça, je me recroqueville dans mon siège. J'aime pas ça. J'aime pas voir quelqu'un qui se fait ouvrir la langue en deux ou des affaires comme ça. Fait que des trucs comme plus l'horreur psychologique ou imaginatif ou, tu sais, il faut juste avec le texte, le dialogue, il te fait vraiment entrevoir des trucs vraiment sombres à propos de l'être humain. Plutôt que quelque chose de viscéral, de violent avec les yeux, là. Fait que moi, c'est ça. Moi, ça, c'est le contraire. Les thrillers, je suis pas tant fan. Je préfère juste l'horreur psychologique, le suspense.
Ah, moi, j'aime pas. Je vais finir, je vais être dans mon lit, là, puis je vais penser à ça toute la nuit.
Trop réaliste.
Non.
Et de ton côté, Nassim?
Ouais, ni thriller, ni horreur. Par contre, ce jeu-là, vraiment, il a l'air très intéressant. J'aime bien tout ce qui est un peu psychologique là, dans les jeux vidéo, dans les films, dans la littérature, un peu partout. Donc, Amnesia, c'est vraiment un jeu qui m'a l'air vraiment intéressant, justement, sur cet aspect-là. Des films d'horreur ou même des histoires d'horreur, j'en ai vu quand même quelques-unes et lu quelques-unes. Puis je te dirais vraiment, c'est ça, moi, mes préférés, un peu comme Jérémy, c'est dans le psychologique, justement, quand on voit juste des personnages se découper, etc., bof, pas vraiment. Mais par exemple, un film d'horreur, Final Destination.
Ouais, c'est Destination ça. Finale, Destination bon, Ultime.
Destination Ultime, c'est ça, c'est drôle, ça, ce film-là, non?
C'est drôle parce que le gore est tellement exagéré que... C'est pas l'objectif principal. Initialement, les premières destinations ultimes, ils voulaient faire peur. C'est drôle.
Ben, c'est ça, tu vois. Ça, c'est un des films d'horreur, on va dire, qui va comme marquer. Là. Bon, parce que déjà, on n'avait pas trop le choix. On les écoutait tout le temps.
Ouais, les midis au secondaire, ils nous les faisaient tous passer. Les jeunes de 12 ans, en plus. Oh non!
On les a toutes vues, là. C'était ridicule, là. Tu voyais ça à la cafétéria, tout le monde voyait ça. J'ai pas le choix de regarder. Puis là, après, tout le monde part à rire. C'est des morts les plus improbables possibles.
Ah oui. Ben, moi, je me rappelle notamment, puis ça va être la dernière chose que je dis avant qu'on aille à la pause, mais je me rappelle notamment du fait que il y a un moment donné, il y a une gymnaste qui est en train de faire sa routine, puis là, il y a une vis qui tombe par terre, puis là, elle passe son temps à genre marcher autour de la vis sans jamais la voir, puis là, tu te dis, oh my god, quand est-ce qu'elle va marcher dessus, quand est-ce qu'elle va marcher dessus, puis genre, tout te fait croire qu'elle va tomber, puis genre, c'est casser la colonne vertébrale. Ben non, finalement, c'est le plafond qui tombe, qui l'écrase. Ok, d'accord, ça en est ridicule.
C'est un film d'humour, là.
Tu voulais dire quelque chose, Jérémy?
Ah oui, c'est ça, rapidement, ça, quand Nassim parlait un peu de. Il aimait cette notion de transformation psychologique. L'un des détails que j'ai vraiment. Je pense que le détail qui est le plus sous-estimé à propos de Machine for Pigs. Mm-hmm. Quand tu fais quand tu te promènes dans la machine, tu rentres dans la machine à partir d'une église, tu rentres dans le sous-sol mm-hmm. d'une église. Et quand tu rentres dans l'église, déjà, il y a une croix avec un porc dessus, donc il n'y a pas le Christ. Donc déjà, c'est vraiment fort. Et après, quand tu rentres dans au fur et à mesure, chaque partie de la machine, c'est nommé après un organe. Donc vraiment la notion de transformation dans un corps, tu rentres dans un esprit, tu rentres dans un corps, et après il ressort. Donc vraiment c'est fort.
On s'en reparlera donc après la pause.
Depuis 25 ans, nous, on y passe à autre chose.
Ah yeah. Ah yeah,
Chiz 94.3, la radio que tu mérites depuis 1997.
écoutez toujours des Kiwi Dinners à Chiz 94.3.
Votre animateur radio est toujours à propos de transition, ce qui fait que vous vous en êtes aperçu si vous avez le moindrement écouté. Nous avons transitionné de Amnesia à Machine for Pigs à Sierra Leone de Dark Souls 2. Et ça s'est quand même bien fait. Je suis assez fier de moi.
J'aime vraiment bien ça.
Je me suis fait complimenter pour mes transitions la semaine dernière et je vais être d'accord que ça mérite des compliments. Mais mon ego mis à part, on peut donc continuer en parlant cette fois-ci de Top Gun Maverick. Donc on passe carrément ici du film d'horreur à un film d'action bien patriotique, bien américain, du Tom Cruise. On va faire donc un bond dans le temps au final avec Tom Cruise qui lui n'a pas changé du tout.
Non, il n'a pas changé. Même qu'il paraît mieux.
Ok, d'accord, on a un kink peut-être.
Ouais, ben moi c'était, je l'ai bien aimé Top Gun. Puis je l'ai écouté il y a, c'est ça, à peu près un mois. Puis je m'avais payé la traite là, je l'ai écouté ultra AVX là, avec le sang, le son intense là dans l'avion, puis. Tu peux bouger ton banc, fait que t'es confortable.
T'as écouté ça où avec ça, ces sièges-là?
C'est Cineplex.
OK. Ouais. C'est Cineplex que ça.
Ouais. J'aurais bien aimé ça en D-Box, là, tu sais, quand tu bouges avec le siège, là, mais il n'y avait pas l'option. Donc, on est allé au Second Best. Puis, j'étais allée voir ça avec. C'est une soirée de filles, là. J'étais allée voir ça avec ma soeur, ma tante, puis ma mère. Puis, ma mère, elle, c'est une number one fan. Là. Top Gun, elle sait par cœur, le premier. Elle connaît toutes les répliques, elle connaît tous les personnages. Elle sait c'est quand que la chanson va arriver. Tu peux pas te signer avec, là.
Elle sait de quoi elle parle.
Oui, oui. Et moi, j'ai eu le meilleur siège. J'étais à côté de ma sœur puis ma mère. Ma mère qui est number one fan, puis ma sœur qui on fait juste regarder puis on sait de quoi qu'on parle. On l'est assis. Ben, je te mets en situation, là. On l'est assis. Et... le film, il n'est même pas commencé. C'est Tom Cruise qui arrive, puis il raconte que, dans ce film-là, on l'a mis tel jet, tel avion, fait que je suis vraiment fière, puis j'espère que vous allez aimer ça. Puis on entend quelqu'un dans la salle. « Maverick, on t'aime! »
Ah!
C'était pas ma mère.
Mais ma mère. C'est ce que j'allais demander.
Mais ma mère s'est retournée vers moi, puis elle dit, « Pire que moi, Tom Cruise, il est même pas là. » Fait que déjà là, je savais que ça allait être prometteur.
Ça allait être une belle expérience.
Ah oui, oui, oui. Et là, finalement, le film commence. Puis ça commence pareil comme le premier. À capoter, était comme, eh, mais c'est pareil, c'est la même chanson, c'est le même bout. Puis là, j'étais genre, OK, ça y est, je l'ai perdu. Là. Et rentre dans le film.
Là, elle commence à crier.
Ah, c'est ça, il y a plus de mère. Là. C'est à nouveau une adolescente en train de regarder son film. Là. C'est
ça. Puis elle, quand c'est sorti, elle avait comme genre 11-12 ans. Puis c'était quand même un gros hit là, parce que c'était dans les premiers films, dans les années 80, que c'était le bon côté de l'armée. Là, parce qu'avant ça, c'était comme genre Platoon. Puis c'était...
La guerre, c'est moche.
La guerre, c'est moche, puis traumatiste. Puis là, celui-là, c'est le premier qui est comme genre, ouais, c'est le fun de l'armée, là.
C'est lui qui a lancé la mode, là.
Puis, ouais, fait que je comprends que c'était un moment quand même assez cool. Puis elle, l'écouter, genre, ça se compte pas ses doigts, là. Mm-hmm. Fait que...
Mais ça a été un énorme phénomène culturel, Top Gun. Nous, on s'en rend moins compte parce que là, autour de la table, vous donnez une idée, l'âge moyen dépasse pas 30. Là. Mm-hmm. En fait, on a tous 25. Ça a été un énorme phénomène culturel pour nos parents à nous et probablement pour certains d'entre vous, chers auditeurs, mais on parle vraiment de quelque chose qui est énorme. En fait, la plupart des films qu'on regarde ont des références à Top Gun ou sont des parodies d'eux. C'est juste qu'on n'est pas au courant.
Mm-hmm. Ouais. Puis le meilleur moment, en tout cas pour moi, là, c'était un moment de suspense. Là, on te regardait... Ben je cherche mes mots, là. Ça va pas bien?
C'est pas simple.
Ouais. Mais l'histoire, là, bref, c'est Maverick. Il a été assigné pour enseigner la meilleure élite de passer une mission, genre, impossible, en peu de temps. Puis c'est vraiment intense, là. Puis les entraînements, t'étais comme, mon Dieu, je ferais jamais ça. Il y a des moments que, tu sais, ils jouent avec la gravité, là, toute la pression sur eux, puis le manque de perte de connaissance. Fait que il y avait des moments très stressants. Mais... ma mère, c'était la plus stressée, là. Plus que ça avançait, puis là, là, c'était la mission, là, elle s'avançait, elle s'avançait, elle s'avançait. À un moment donné, je pense qu'elle était même plus sur le banc, là. Puis elle avait les mains, là, croisées, là, puis elle manquait pas une seconde, là.
Elle était à fond, là.
Ah ouais.
Hey, ça me fait vraiment rire, parce que je viens d'y penser. Récemment, moi, je suis abonné à différentes chaînes, là, YouTube, un peu bizarres, là, qui remettent des annonces des années 50, 60. Puis j'ai découvert, c'est là que j'ai découvert que le Top Gun original, là, il avait été inspiré par une annonce commerciale d'une entreprise du complexe industriel militaire américain, Lockheed Martin, qui faisait la promotion d'un jet, de quelque sorte, là. Puis c'est ça, Top Gun, c'est quand les réalisateurs ont vu cette annonce-là qui avait été faite pour vendre un jet de Lockheed Martin, ouais, qui se sont inspirés pour faire le film Top Gun. Fait que, non, je voulais faire un commentaire rapidement, parce que si on parle, c'est un truc culte, ça l'a vraiment
fait
aujourd'hui. C'est un film que la suite qu'on vient de voir, Maverick, elle a un gros succès au box-office, mais tout ça est parti de où? D'une annonce de Lockheed Martin pour un jet.
Le pouvoir de la publicité, mesdames et messieurs.
Mm. Ah ouais. Puis c'est cool dans cela, parce que lui, il est rendu fan, là, Tom Cruise. Puis c'est rendu qu'il conduit genre des jets. Puis là, dans ceux-là, là, il a vraiment mis le paquet dans les détails. Fait que même ceux-là qui ont un petit knowledge là, de ça, c'est quand même trippant. C'est sûr qu'ils font des affaires que ça se peut pas, là. Mm-hmm. C'est quand même un film.
Ouais,
là.
C'est une fiction.
Mais c'était trippant. Mm. Puis ma mère, ben, c'est ça, là. Elle n'a pas tombé de sa chaise, mais.
Mais mettons que la chaise aurait accepté de l'abandonner à un moment ou un autre pendant
ça,
la...
C'était...
Ça devait être très drôle à voir le changement corporel qui devait s'effectuer au fur et à mesure du film.
À chaque fois, le petit saut, puis OK. Puis là, à un moment donné, tu dis OK, il s'en est sorti, puis non, finalement, non, on se rapproche.
En as-tu profité pour lui rappeler de respirer une fois de temps en temps? Là,
moi, je me moquais d'elle. Mais j'ai adoré, puis... Il n'y avait pas un moment que j'avais un doute sur un personnage, parce qu'avant même qu'il arrive, elle était comme « Ah, oh, la fille, c'est celle-là qu'on l'a mentionné dans le premier au début. Ah, oh, ça doit être Iceman qui arrive. » Fait que je pouvais pas être mêlée. Puis même à ça, le film, il est pas compliqué. Là. C'est...
Ouais.
Il y a un début puis une fin, puis c'est parfait comme ça. Là.
Ouais, ben c'est ça, c'est que ça va, c'est très direct, mais en même temps, c'est aussi un peu la patte de Joseph Kosinski, qui est le réalisateur de Top Gun Maverick, qui notamment a fait Seulement les Braves, Oblivion, Tron. C'est des films que, tu sais, il y a un message au travers, mais ce qu'il aime faire, c'est un film début, milieu, fin, on a raconté notre histoire, parfait, c'est fait. Il y a aussi l'habitude de travailler avec Tom Cruise. Savoir qu'on ne pouvait pas avoir le même réalisateur que celui qui avait fait le premier Top Gun. Je ne sais plus si c'est parce qu'il est décédé récemment ou si c'était une question de maladie, mais je sais que il y a certains acteurs qui reviennent dans Maverick, qui étaient là dans le premier Top Gun, qui, eux, contrairement à Tom Cruise, ont effectivement vieilli, là...
Ouais, ben, il y en a un qui a passé à travers là, un concert, fait que c'est sûr qu'il m'a gagné. Mm-hmm. Mais c'était vraiment cool de le voir. Là. Ça,
ouais.
Tu voyais, genre, dans les yeux à ma mère puis ma tante, là, qui était vraiment heureuse de le revoir, puis ça allait chercher des souvenirs, fait que...
Mais
c'était un bon choix.
Top Gun Maverick, un truc qu'ils ont fait que je trouve qui est exceptionnel, c'est qu'ils sont allés mêler la fiction et le réel, parce qu'en fait, tu viens de le mentionner, il a passé au travers d'un cancer, puis c'était un cancer, il me semble, de la gorge, qui fait qu'il ne peut, c'est très difficile pour lui de parler. Mais ça, ils l'ont rajouté dans le film, genre je pense que c'est le colonel, corrige-moi si je me trompe, mais bref, c'est quelqu'un qui est important pour...
C'est Admiral, il me semble.
OK, ouais, c'est l'amiral. Ouais. Donc, il y a un moment où Maverick va parler avec l'amiral, puis ils ont une discussion, puis tu sais, l'amiral, il est sur un text-to-speech, dans le fond.
Mm-hmm.
Sauf qu'il y a une scène où il parle, vraiment, c'est l'acteur qui prend la peine de parler. Ça devait être marquant, ça devait être fort. Là. Si on parle d'un moment où sa mère a dû tomber de son siège, là, probablement qu'on devait être pas très loin. Là.
Ouais.
C'est l'une des joies, moi, que j'ai de ce genre de film-là, hommage.
Mm-hmm.
C'est quand tu peux voir des acteurs, mais tu les retrouves 40, 30 ans plus tard. Tu peux vraiment voir ils ont changé, tu vois, eux-mêmes ont des nouvelles expériences,
ouais.
Tout le monde change, nous on a des nouvelles vies, tu sais, on a de nouveaux triomphes, de nouvelles peines, tu vois, puis ça fait vraiment, moi ça me fait du bien, c'est vraiment nostalgique,
ouais.
De retrouver des acteurs, tu sais, waouh, tu sais, je l'ai connu quand j'étais tout jeune, ou quand lui ou elle était toute jeune, puis waouh, tout d'un coup ils sont vieux, ils ont du vécu, ils ont fait peut-être 40 films entre temps,
ouais.
Tu les retrouves dans quelque chose de familier, c'est, moi j'aime ces expériences,
ouais.
J'aime les films comme ça, hommage, qui
c'est surtout des films d'action, là. Ils sont des banques de gars, genre, c'était au summum de leur carrière, mm-hmm. faire tout sort de cascades. Puis là, ils sont rendus vieux. Tu sais, un peu, on pourrait penser à plusieurs acteurs comme ça aujourd'hui. Là,
ils sont rendus à leur âge d'or.
Exactement, à l'âge d'or. Puis surtout dans les westerns, des affaires comme ça. Tu peux voir là, comme la transition des personnages. Ouais. Puis ils deviennent sages, ils sont barbus, tu vois. Puis là, ils ont les yeux plissés. Ils sont... Moi, j'aime vraiment savoir la progression comme ça d'un acteur là, au travers de sa carrière.
Ben, aussi, un truc qui est impressionnant avec Maverick que tu as mentionné, c'est qu'il n'y a presque pas de CGI, en fait. Il n'y a presque pas de trucs qui n'ont pas été faits pour vrai. C'est-à-dire que lorsqu'on va voir Tom Cruise dans son jet, Tom Cruise est dans un jet pour de vrai. Le monsieur a 60 ans, j'aimerais juste faire le rappel. Le monsieur conduit un jet, c'est pour juste une petite explication rapide. Pour pouvoir conduire un jet, ça prend une santé qui est top-notch parce que ben, dans les films, on le voit notamment. Tu sais, quand il faut s'éjecter puis des trucs comme ça, là, ça a l'air donc facile. Non, c'est parce que lorsqu'un pilote d'avion s'éjecte, c'est la fin de sa carrière. Un pilote d'avion qui s'éjecte vient de s'infliger des douleurs à la colonne qui sont irréversibles. Comme pour pouvoir encore conduire un jet à 60 ans, il faut vraiment être au pic de sa condition physique. Puis ça, c'est vachement impressionnant, là. Peu importe ce qu'on en dira. Moi, 25 ans, j'aurais même pas le courage de monter dans un jet, encore moins de le piloter. Tom Cruise, il le fait pendant qu'il est en train de jouer un rôle et qu'il y a des caméras et de l'équipement dont il doit, qui valent très cher, là.
Ouais, ouais. Mais d'après moi, Tom Cruise, c'est un adrénaline junkie.
Ah, ben oui. Mais c'est son...
Il fait encore toutes ces cascades, puis... C'est impressionnant.
C'est son anane. Le gars s'est suspendu sur un avion qui était dans le ciel, là, mais comme c'est une vraie scène. Tu sais, il y avait de l'équipement parce qu'à un moment donné, il ne faut pas déconner non plus. Là. Mais même s'il était attaché, le gars, il est sur le bord d'un avion qui est en train de décoller, qui s'envole dans les airs pour de vrai. Là. Puis dans les airs, ben, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu à la maison, mais c'est dur de respirer lorsqu'on est en haute altitude. C'est très, très dur de respirer. Et quand on a de la difficulté à respirer, c'est dur de se tenir accroché après un avion. Bref, Tom Cruise, adrénaline junkie absolu. Là, c'est impressionnant. C'est impressionnant.
Ah, il mérite l'argent qu'on le paye, je pense.
Ah oui,
c'est plus de l'argent qu'il génère. Là.
Si on parle de quelqu'un qui mérite son salaire, là, Tom Cruise, il l'a mérité, son salaire. Ouais. Donnez-lui une augmentation.
Ah ben ouais, mais
c'est sur moi, c'est sur moi.
Parfait. Donc, est-ce qu'on avait fait le tour au niveau de Top Gun Maverick?
Ah ben oui. Puis si t'as la chance de voir avec quelqu'un qui trippe, là, c'est malade, là. Moi, j'y retournerai 1000 fois avec ma mère. Là.
Ben c'est ça, tu me diras, je lui paierai le billet, là, on ira ensemble.
Ok, ok.
Parfait. Donc, parlant de payer le billet, Nassim, veux-tu nous parler de ta chronique sur les jeux de société?
Yes, sir. Donc, moi, j'ai, comme on se rappelle, là, dans le fond, j'ai fait plus de chroniques que j'ai joué à des jeux vidéo. je change pas la tradition, les amis. Malheureusement, j'ai trahi ma promesse à ma première émission qui était d'essayer des nouveaux jeux vidéo. J'ai pas le temps, malheureusement.
Attendez, essayez quelques-uns quand même.
C'est ça, voilà, j'ai essayé pour la première chronique. C'est comme quand tu prends des bonnes résolutions, tu t'achètes un abonnement au gym, etc. Tu vas la première
semaine. Ouais, c'est tout.
Puis, that's it. Merci, bonsoir, les amis. Man, plus jamais on te revoit, là.
Mais tu continues de payer l'abonnement, par contre.
Tu payes à chaque mois. On sait jamais si un jour je change d'idée.
Tu vas peut-être y retourner, là. Il y a genre 20 jeux dans ta librairie Steam que t'as jamais ouvert. Mais...
Le premier mois, j'étais juste vraiment occupé. Le premier mois, j'ai vraiment y allé. Le deuxième mois, ça commence pour de vrai, là. Mais là,
c'est ça, c'est que j'étais trop occupé. Ouais. On les connaît, là.
Fait que c'est un peu ça qui se passe. Exact. J'ai comme garni un peu ma bibliothèque Steam, mais bon, malheureusement, je l'utilise pas trop. Mais j'ai joué à des jeux de société quand même. L'expérience de la radio me permet quand même de jouer aux jeux de société. Je trouve une plus grande, personnellement, disposition à jouer à des jeux de société, parce que justement, on joue avec des gens. Mm-hmm. Surtout, aujourd'hui, il y a comme des endroits où on peut aller puis, tu sais, louer des jeux vidéo, des jeux de société. Puis on peut jouer avec ses amis, on peut manger, on peut s'amuser, etc.
Ben c'est là qu'on avait rencontré François, qui moi je connaissais déjà, mais qui est un de nos chroniqueurs maintenant.
Exactement, qui nous a fait un excellent service, puis justement qui nous a présenté deux jeux, un dont je vais parler. Aussi, dans la vie de tous les jours, je veux dire, quand tu vas faire un barbecue, etc., jouer à des jeux de société, c'est une bonne façon de briser la glace, c'est une bonne façon d'apprendre à connaître les autres, ouais. etc. Et donc,
pendant des rencontres de ressources humaines dans des entreprises. Hein.
Tout à fait, exactement. Même dans les entreprises, c'est un excellent. Donc, si jamais vous êtes des RH dans les ressources humaines, etc., faire jouer à des jeux de société, c'est un excellent moyen de faire connaître. Et donc,
embaucher des maîtres de jeu de Donjons Dragons aussi, c'est une excellente opportunité. Je place ça comme ça.
Exactement.
Si jamais RH nous écoute.
C'est ça, exactement. Donc, si vous avez de l'argent, le Donjons et Dragons, c'est une échelle au-dessus encore plus que les jeux de société. Fait que investissez là, dans notre ami ici présent. mais plus sérieusement, c'est ça. Donc, les jeux que je vais parler, ça va être trois jeux. Je vais aller assez rapidement. Donc, puis je vais vous les conseiller en ordre, entre guillemets, ok? Celui que je conseille le moins, ça s'appelle Arwen, ok? C'est un jeu vraiment cool. Le principe du jeu, c'est que vous êtes, par exemple, quatre personnes à jouer. Il y a une personne, vous allez piger cinq cartes, puis chacune des cartes, c'est des choses de la vie quotidienne, genre marcher, manger, sentir la pluie, etc. Donc, ces cinq cartes, l'objectif, c'est qu'il va devoir ranker, il va devoir faire un classement dans ces cinq affaires-là, ce qu'il aime le plus et ce qu'il aime le moins. Okay, de 1 à 5. Puis ensuite, les autres autour de la table, ils vont devoir essayer de deviner, d'avoir le même système de classement que lui. C'est un très beau jeu à faire entre amis, entre gens qui se connaissent. Quand vous ne vous connaissez pas, c'est pas mal, mais tu ne peux pas y jouer trop longtemps. Pourquoi? Parce que vous ne vous connaissez pas. Comment tu veux que je devine? Est-ce que t'aimes l'odeur de la pluie? On sait même pas parler, je sais même pas ton prénom.
Même qu'au final, tu prends des risques parce qu'il faut que tu te bases sur des préjugés à ce moment-là.
C'est vraiment ça, tu te bases vraiment sur des préjugés, mais je pense que c'est ça, des fois, qui peut être le fun dans le sens au début, tu sais, jouer juste un petit peu, là, parce que justement, tu sais, vous allez pouvoir genre, jouer un peu avec vos préjugés, tu vas savoir, genre, si t'aimes faire de l'analytique sociale, etc., tu vas. En jouant à ce jeu-là, tu peux facilement comprendre qu'est-ce que les gens autour pensent de toi très, très rapidement. Puis ça donne beaucoup, beaucoup de points, justement, social, parce que tu comprends que lui, il pense que je suis comme ça. Fait que, non, je veux pas qu'il pense ça. Fait que je vais aller booster notre caractéristique,
etc. La vraie vie est un RPG pour lui.
C'est vraiment, c'est Dungeons & Dragons. C'est pour ça que je joue pas à D&D, c'est la vraie vie, déjà. Fait que, mais honnêtement, c'est vraiment ça, parce que je l'ai joué dans le contexte du travail, en fait, ce jeu-là, à Rouen. Puis c'était ça, c'est qu'on a joué pendant les 30 minutes, les premières 30 minutes, c'était vraiment nice. On a fait comme deux tours, c'était vraiment nice. Mais très rapidement après ça, c'était comme trop redondant. On sait plus trop, ça devient juste du hasard. C'est bon, les préjugés, on les a toutes faites, etc. Fait que, bon, mais entre amis, c'est un excellent jeu. Parce que là, ça va commencer à chicaner. Ben là, moi, je sais que t'aimes ça plus que ça.
Je vois pas de quoi tu parles.
Ça veut dire, là, comment ça, tu mens, là? Je sais que c'est ça que t'aimes. Arrête de niaiser. Mes quatre, là, tu sais.
La colocataire sait de quoi elle parle, OK?
C'est ça, mais c'est vraiment un jeu le fun avec ses amis. Mais par contre, un jeu que tu peux jouer vraiment avec des amis ou même des gens que tu connais moins, c'est Dilemme Express. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment le fun. Le principe, c'est qu'il y a un train qui va passer. C'est toujours en nombre impair que ça se joue. Vous avez par exemple 7, okay, 3 contre 3 avec un juge. Puis là, dans le fond, vous allez piger des cartes. Puis les cartes, là, Jeremy, tu vas devoir m'aider à expliquer. Les cartes, c'est genre, par exemple, sur le train, on va avoir une carte, c'est genre
mais dans le fond,
une mauvaise personne qu'on déteste, ta famille, l'argent, puis etc.
Exact.
Puis quand tu roules sur le train, ben, t'es en train de rouler sur ta famille, right? Puis alors que de l'autre côté, si tu roules, ben, tu roules sur une personne qui est détestable, que toute l'humanité déteste, pour pas nommer son nom.
Ouais, non, mais tout le monde, ce qu'on parle, Deuxième Guerre mondiale, parfait, tout le monde a compris.
C'est ça.
Effectivement, dans Dilemme Express, t'as les cartes innocents qui sont des civils, donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être des enfants, ça peut être ta mère à la garderie, ça peut vraiment être n'importe quoi. C'est fait parce qu'il y en a des nappiness, fait que des fois, il y a des trucs qui sont très, très drôles, qui sont très farfelus.
Ouais, exactement. Puis c'est ça qui est beau avec le jeu, c'est qu'il y a des trucs vraiment drôles, fait que quand vous allez rire, vous allez trouver ça vraiment absurde, etc. Fait que c'était un peu ça le principe. Le principe après, c'est de débattre, chacune des équipes de débattre. Ça montre ça, ça montre justement, tu sais, vous allez. Puis en plus, les équipes changent tout le temps, ok? Fait que là, ça va toujours être 3 contre 3, mais ça va pas être toujours les mêmes personnes. Fait que ça vient balancer le jeu. Exactement, le conducteur de tramway change, etc. Puis quand t'es dans l'équipe gagnante, tu gagnes un point. Puis ça, c'est vraiment le fun parce que ça vient jouer tes valeurs, ça vient jouer ce que tu aimes le plus, ce qui compte le plus pour toi, ce qui compte le moins. Puis tu sais, au niveau des personnes aussi, tu sais, tes amis ou ta famille, la valeur, la solidarité ou. La loyauté ou la sécurité ou la liberté, plein de trucs comme ça. Puis ça peut partir en gros débat philosophique. Puis ça va vraiment varier du niveau du groupe que vous êtes.
Exact.
Autant ça peut vraiment partir en débat philosophique, autant vous pouvez juste aller en surface pour vous amuser. Puis let's go, on a du fun. Ça, c'est un jeu vraiment le fun.
Mais l'essence même de Dilemme Express, en fait, se base sur ce qu'on appelle le trolley problem, qui est un concept philosophique utilitariste. Donc c'était inévitable.
Exactement, c'est vrai, c'est ça l'inspiration. En fait, ce jeu-là, je le conseille à 100 000%. Puis le dernier jeu que je vais parler rapidement, c'est TMDC.
TTMC.
TTMC.
Tu te mets combien?
Parfait, tu te mets combien exactement? TTMC. Ça, c'est un jeu, de ce que j'ai l'impression, quand tu avais joué, c'est un jeu québécois, parce qu'il y avait des questions sur Occupation Double.
Oui, oui, mais je crois qu'on avait une édition québécoise, mais je ne pourrais te dire si le jeu en lui-même est québécois.
OK, donc, mais il y a une édition québécoise qui est très intéressante. L'objectif de ça, c'est un peu de tester votre culture générale. Par exemple, il y a plusieurs catégories. Par exemple, la catégorie maquillage, puis là, ben, vous pensez que vous êtes bon à combien sur 10 sur maquillage? Puis, dépendamment du niveau que vous choisissez, ben, les questions vont être plus difficiles, etc.
Puis, lorsque vous réussissez, vous allez avoir plus de points. Donc, si vous vous êtes mis 10, par exemple, moi, on avait eu une question au niveau de l'entraînement privé, ben, je m'étais mis 10 parce que, ben, forcément, ce qui fait qu'on avait avancé vraiment beaucoup. Mais si tu es trop confiant en tes compétences, ben, tu n'avanceras pas, tu n'auras pas tes points.
Exactement. Puis, ce que j'ai aimé avec ce jeu-là, bon, c'est anecdote. C'est que des fois, il y a des questions, j'ai l'impression qu'il y a des questions 2 qui sont plus difficiles que des questions 7. On avait fait le test, puis là, je suis genre, ouais.
Le parfum.
C'est plus... ouais, c'est ça. Mais il me semble que 2, c'était très difficile. Mais ça, c'était juste un petit exception, on va dire. Mais tout le reste, le jeu est
normalement, c'est balancé.
C'est ça. C'est un jeu vraiment le fun. Puis, même chose, ce que j'aime de ce jeu-là, c'est que ça peut être comme compétitif, ça peut être juste relax, on a du fun, puis t'apprends à connaître les gens, justement, tu vas apprendre plus c'est quoi leur champ d'intérêt, etc. Fait que ça, c'est un jeu qui joue avec ses amis.
Ben, Judith est avec nous, notamment.
Exactement, c'est vrai. Judith, en fait, tout le monde ici autour de la table a joué à au moins un des jeux que je présente, puis on a tous des anecdotes assez spéciales sur chacun de ceux-là. Mais, fait que ce jeu-là était vraiment le fun. Ce que j'aime avec ça, c'est qu'on a toujours un objectif assez clair avec ce jeu-là. Tandis que, par exemple, dans le jeu Hawaii, c'est un peu moins clair. Mm-hmm. C'est quoi l'objectif? Fait qu'on fait comme un tour, deux tours, trois tours, puis après, on est comme, bon, c'est assez, là.
Ben, je me rappelle que même quand nous, on avait joué, on avait fait quelques tours, sauf qu'on a fini par demander un autre jeu. Puis c'est le genre de jeu qui est très sympathique à jouer, mais que tu feras pas une heure là-dessus. Là.
C'est ça, exactement, en fait. Fait que ce serait pas mal ça, mes trois jeux de société là, que je vous conseille.
J'ai quand même une petite anecdote comique pour nos auditeurs à la maison. En fait, c'est que Nassim, il a beaucoup regardé Occupation Double. Et initialement, on avait décidé qu'on allait faire les gars contre les filles parce que ça avait juste à donner qu'on avait tellement nombre pour faire ça. Et en plein milieu de la partie, lorsqu'on a commencé à entrer dans les questions Occupation Double, il a passé du côté des filles. Il a changé d'équipe parce que c'est elle qui a vu la question et il voulait y répondre.
C'est vraiment drôle, c'est vrai. Non, je me fais expose ici, les amis. Bon, c'est ma dernière émission. On va plus jamais revenir.
Mon nom, c'est Maxime, finalement.
Ils vont revenir sous une autre identité.
Mais ouais, c'est vrai, c'était vraiment le fun. C'est ça, mais tu sais, c'est ça que j'aime vraiment des jeux de société, en fait. C'est que, tu sais, il n'y a pas vraiment de règles. On fait juste s'amuser.
C'est l'expérience vécue.
C'est ça, on est juste là pour s'amuser. Faites n'importe quoi. Tant que vous vous amusez, c'est vraiment ça le principe. Puis c'est exactement ça. Et puis sur Occupation Double, puis je l'ai raté malheureusement, puisque bref, c'était une saison vraiment pas bien, là.
Mais effectivement, le truc que je trouve drôle, par contre, au Québec, tout le monde dit « Ah non, moi, j'écoute pas Occupation Double. » C'est quand même l'émission qui a le plus de codes d'écoute dans tout le Québec.
C'est vraiment une très bonne émission, franchement. Là, bon,
c'est fascinant, ne serait-ce que du point de vue psychologique. Là.
Ouais, mais moi, j'irais... Non, arrêtez là, vos histoires de psychosociaux. Vous êtes ni sociologue, ni psychologue.
C'est pour ça que j'ai dit ça. Je savais que j'allais te starter.
Vous êtes ni psychologue, ni sociologue. Ne regardez pas ça pour les faits sociologiques. Vous aimez ça parce que c'est le fun. C'est ça. Puis c'est un peu, entre guillemets, la déchéance de l'humanité.
La déchéance de l'humanité. OK, merci 2022. OD, la déchéance de l'humanité. OK, d'accord.
Don't get me started, man. Non, mais honnêtement, non, c'est pas la déchéance, mais dire que c'est vraiment...
C'est un très bon divertissement.
C'est ça, mais non, mais c'est sûr que tu vois des trucs que dans la vraie vie, tu verrais pas. Il y a un peu de la trahison qui se joue dans
C'est un
dans
jeu
ce
au final. Hein.
Exactement. Puis il y a un suspense psychologique, il y a de la stratégie psychologique qui se joue là-dedans. Puis
il y a même des analystes d'Occupation Double sur YouTube. Hein.
Certifié là, de diplôme, là, très, très, très connu là, du YouTube Game. Là.
Diplômé YouTube.
Ça serait pas mal ça. Là. Merci de m'avoir exposé sur mon amour de YouTube. Mais ouais, juste avant de finir.
Je me suis dit que ça allait être okay.
Juste avant de finir ma chronique, malgré que tu as été vilain envers moi, je vais t'envoyer des fleurs. Puis j'aimerais remercier Jérémy d'avoir perpétué l'émission. Franchement, sans nous, on était là depuis le début. Puis l'émission, ça roule. C'est à chaque semaine des nouveaux chroniqueurs. C'est assez difficile à faire. Fait que moi, je lève mon chapeau. Même chose pour les transitions. J'ai déjà été derrière la console. Là. Ça brûle des neurones, mon ami.
Ouais.
Donc, c'est très difficile. Bravo. Fait que c'est pas mal ça. Comme ça, je vais finir avec des félicitations, des fleurs.
Un vrai bon prince, tu vois. Quand il crache à la figure, il fait la courbette, tu vois.
Formidable. Bien, merci beaucoup pour ces compliments. L'émission donc est effectivement sur le point de terminer. On va entendre l'autre show à l'instant. C'était merveilleux comme transition que tu m'as offert ici, Nassim. Donc nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de The Kiwi des Nerds, où il me semble que nous allons avoir encore une fois notre j'ai envie de dire stagiaire, Maya Fizet, qui va venir nous parler encore une fois d'une adaptation filmique. On lui envoie quand même beaucoup de courage. Elle a eu un gros tournage, il me semble c'est cette fin de semaine, où elle a travaillé sur Dédale et Magie, qui va être donc une web série qui va parler de jeux de rôle. Et c'était une excellente émission en très bonne compagnie aujourd'hui. On va espérer que la semaine prochaine le sera tout autant. Et on a toujours d'aussi magnifiques auditeurs. Ce n'est pas car je ne vous entends pas que je ne sais pas que vous êtes très jolis. Je vous souhaite donc une merveilleuse semaine. Oui, Nassim.
Merci à tous. Aujourd'hui, c'était les OG qui étaient là. Donc
oui, voilà, exactement. Hein?
Le OG crew.
Absolument. On va être de retour, vous pouvez y compter. Hein.
Donc, à la semaine prochaine.
Merci.
Vous écoutez chez 94.3 FM à Québec.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Ça pour le fun, on le dit à personne, on se bourre, elle déconne, je la frôle, elle frissonne, on décolle sur Rocky Ship, on est seul dans le cockpit, la dérive dans l'orbite, smoke un gaz cosmique, ain't nobody stopping us, comme une roulette russe.
Radio Futura.
Vous écoutez Radio Futura.
Bonjour, mon nom est Stéphanie. À Radio Futura, vous écoutez mon papa.
Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Life is a medium in which we all must travel. And in this medium, there are many obstacles. Obstacles of past, present, and future. There comes a time.